bienvenue à tous dans cette émission spéciale. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de sport, mais pas que. On va beaucoup parler de cinéma aussi. Pour m'accompagner dans ce numéro, Louis-Marie Solaire, Monsieur Loyal Cinéma. Il a la voix aussi suave qu'un doux coucher de soleil. Bienvenue Louis-Marie.
Bonjour à tous.
Comment ça va? C'est votre première?
C'est ma première avec vous, voilà. Oui, Jonathan.
On va parler de sport et de cinéma, et c'est ça qui est beau. Quelqu'un dont on ne présente plus le prénom, on l'appelle la Bible, ici. Bonjour Éric Dupri.
Je suis la Bible, moi.
Ah, vous avez une capacité de connaissance sur le sport incroyable.
Oui, bah, si vous le dites, moi je vous crois. Hein.
Ah, bah, ça, on le voit.
Je vous demande qu'à vous croire.
On en témoigne tous les jours dans la salle de rédaction.
Peut-être pas tous les jours, quand même.
Oh, si, tous les jours, je vous rassure. On va retrouver évidemment les tops et les flops des films de sport. Vous allez voir une sorte de sélection de films à voir ou pas quand on est passionné de sport. Et ensuite, on parlera aussi du sport au cinéma. Voilà, du sport au cinéma. Est-ce que des fois c'est une bonne idée, des fois une mauvaise idée? Pourquoi? Comment ça a eu lieu? On en parlera dans cette émission. Tout de suite, on commence justement par les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Alors on va commencer par Louis-Marie Solaire qui inaugure sa première dans cette émission. Alors un film qui vous a marqué, un bon film de sport, le top c'est quoi?
Alors le top c'est toujours très subjectif, hein. C'est comme quand on se demande ce qu'est un film culte ou pas. Là il n'en est pas question en tout cas. À propos de ce film, mais vous rappelez probablement, même si vous n'étiez pas né à l'époque de la sortie du film, de ces jeunes gens tout vêtus de blanc avec sur leur maillot brodé l'Union Jack, et ils couraient au ralenti sur une musique un petit peu évanescente, musique électronique dont on commençait à connaître les ambiances, et surtout qui était dont Vangelis en particulier était un des maîtres, et donc c'est lui qui avait composé cette musique pour le film de Hugh Hudson, Les Chariots de Feu, le fameux film Les Chariots de Feu, qui est très connu justement à cause de cette prise de vue du début du film au ralenti et de cette musique qui après prend la tête. Rappelez-vous quand même que pour les Jeux Olympiques de 2012, Mr Bean avait pastiché la scène. Pour l'inauguration.
Oui.
Pour,
c'était très gênant, d'ailleurs.
Bah, c'était Mr Bean. Mais peu importe, revenons au Chariot de Feu, qui raconte pas mal de choses, et on n'est pas dans une séance d'entraînement classique de sportifs. Ici, l'histoire des chariots revient sur une rivalité sportive, la rivalité entre deux athlètes. Alors, il faut situer l'époque, hein, on est au début, dans la deuxième décennie du XXe siècle, et on fait la connaissance d'Harold Abrahams, qui est anglais et juif, et de Eric Liddell, qu'on surnomme l'Écossais volant. Et leur spécialité, à tous les deux, c'est le 100 mètres. Et en fait, ils vont devenir adversaires par distance interposée, parce que l'un courait en Écosse, l'autre courait en Angleterre, puisqu'il était étudiant à
Cambridge.
Oui, c'est Cambridge. Oui, ça aurait pu être l'autre, mais c'est Cambridge où il devait courir. Il y a comme un cloître, faire le tour du cloître pendant les 12 coups sonné par l'horloge à midi. Et 12 coups à midi, le tour du cloître, il y est arrivé, Abrahams. Et donc c'est comme ça qu'on commence à parler de lui et que les deux vont intégrer l'équipe d'Angleterre qui va aller participer aux Jeux Olympiques. C'était en 1924, hein, je parle sous votre autorité, cher Eric, c'est 24, je crois.
C'était à Paris, il me semble.
Oui, c'était à Paris en 24,
il y
exactement.
Il y a eu deux fois les Jeux à Paris, 1900-1924, et il y aura le centenaire de la deuxième session des Jeux à Paris, et ça sera la troisième, donc
oui,
à l'été prochain.
Ces deux hommes vont être appelés d'abord à s'affronter à distance, puis ensuite collaborer et devenir rivaux dans la même équipe d'athlétisme du Royaume-Uni. Alors, il faut quand même situer le film dans l'époque où il est sorti. On est dans les années 80. Il est sorti en 81, donc au tout début des années 80. Le cinéma britannique est un peu en perte de vitesse. Et il y a une forte concurrence pour le cinéma en langue anglaise, à savoir avec le Nouvel Hollywood. À l'époque, outre-Atlantique, Nouvel Hollywood, c'était Francis Coppola, c'était Michael Cimino. Entre autres, il y avait même George Romero à l'époque, avec ses zombies. Et les Britanniques peinaient un peu jusqu'à ce qu'arrive une relève plutôt talentueuse. Rappelez-vous d'Alan Parker et son Midnight Express. Il y avait les frères Scott, Tony et Ridley. Ridley qui commençait la saga Alien hein, à l'époque, et puis Hugh Goodson, donc, qui est le réalisateur de ces fameux chariots de feu qui ne deviendront pas les chariots de feu, mais Hugh Goodson réalisera un autre film qui marchera très bien dans sa filmographie et qui révélera un acteur français, Christophe Lambert. C'est Greystoke, il refait Tarzan, une des nouvelles aventures, la légende de Tarzan. Donc il faut se mettre dans cette ambiance par rapport au film, par rapport à la conjoncture. Et la conjoncture, à ce propos, tout début des années 80, au Royaume-Uni, eh bien, le Premier ministre est une Première ministre. C'est Margaret Thatcher qui deviendra la Dame de Fer, qui veut relancer le Royaume. Et le capitalisme, et puis avec les grèves, et puis le système de santé qui s'écroule.
Et une époque assez particulière.
Et donc, le film arrive et efface justement les conflits ethniques et religieux qui étaient à l'époque dans les années 80. Puisque, je vous le rappelle, Eric Liddell, le sprinteur écossais, était un chrétien catholique ultra pratiquant, alors que Abrahams, lui, était d'origine juive, et donc juif, et qui subissait des remarques antisémites. Voilà pour l'ambiance. La contextualisation du film. Et le titre « Les chariots de feu » est inspiré d'un poème qui s'intitule « Jérusalem » de l'auteur londonien William Blake. « Apportez-moi mon arc d'or incandescent, apportez-moi mes flèches de désir, apportez-moi ma lance aux nuages, déchirez-vous, apportez-moi mon chariot de feu. » Voilà les chariots de feu.
Voilà donc le titre du film.
Exactement. Et en fait... je dévoile peu, de toute façon, c'est pas grave de le savoir, mais ils étaient rivaux sur le 100 mètres. Et donc, les deux voulaient avoir la médaille d'or sur le 100 mètres, mais il n'y en aurait qu'un qui l'aurait. Et le fait que Eric Liddell, l'Écossais volant, soit très pratiquant, aura sauvé cette rivalité, puisque la finale du 100 mètres avait lieu un dimanche, et lui, très pratiquant, ne fait rien le dimanche, et en particulier, il ne court pas. Donc, les entraîneurs de l'équipe du Royaume-Uni ont eu beau faire, il ne courra pas le dimanche et ils décident donc qu'il courra le 400 mètres, Eric Liddell, et Abrahams courra le 100 mètres. Et les deux partiront avec la médaille d'or, l'un en 100 mètres et l'autre au 400 mètres. Voilà pour cette histoire.
Un film qui finit bien au final.
Qui finit bien et qui est bien raconté. Alors, je le dis, il est important... J'insiste sur le fait de se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, il n'y a pas de grandes inventions au niveau scénaristique, ni non plus au niveau de la mise en scène et de la mise en image. Néanmoins, resteront ces fameuses images du début de cette équipe d'athlètes anglais qui courent sur cette plage, les pieds nus, bien sûr, avec la musique de Vangelis qui restera gravée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, au firmament, au panthéon du 7e art.
Gravé dans cette émission aussi, puisqu'on l'écoutera juste après. Ça, c'est votre film qui vaut le détour. C'est ce coup de zoom, il faut voir ce film absolument.
Absolument, je ne serai pas aussi catégorique.
Un vrai coup de cœur.
Ouais, en tout cas, c'est un coup de cœur pour tout ce que j'ai essayé maladroitement de dire. Voilà.
Bah, c'est un film qui a marqué son époque quand même.
Oui, c'est vrai.
Lorsqu'il est sorti, bon, il y a 40 ans tout de même. Oui. Je pense que pour vous, Jonathan, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ah, je vais vous avouer, je ne l'ai pas vu, mais j'ai envie de le voir maintenant.
En effet, ce qui est resté assez curieusement, c'est la musique du film.
Et c'est ça.
C'est la musique du film. Le film en lui-même, bon, ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre du 7e art, on est d'accord. Louis-Marie, il y a eu des films, y compris sur le sport, de bien plus belle facture. Mais c'est un film qui avait marqué son époque tout de même. Et la musique de Vangelis, je me rappelle très bien dans les années 80, c'était le générique de l'émission de sport qui passait les après-midi pendant l'été. Donc c'est vous dire à quel point la musique est vraiment quelque chose qui est resté très longtemps. Lorsqu'on parlait Chariot de Feu, tout de suite on pensait à la musique. Beaucoup de gens ne savaient pas trop ce qu'a raconté le film, mais la musique, oui.
Bien sûr, et à noter que la musique a obtenu l'Oscar.
Avec meilleure musique de film.
Meilleure musique de film.
81, je pense. Enfin, 81, Oscar 81, sans doute.
Voilà. Enfin, 82, puisque le film est sorti en 81, ouais, mais voilà. C'est compliqué. Mais toujours est-il que le film a obtenu, donc la musique a obtenu l'Oscar de la meilleure musique de film, et le film est reparti avec 4 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film.
Oui, donc c'est pour dire que...
Justement, gardez cette petite info, parce qu'il y a une série de questions qui vous attendent à la fin de l'émission, et je dis ça, je dis rien, je pense qu'il y aura une question sur le nombre d'Oscars sur certains films, voilà, où il y a des chariots. Un film Louis-Marie, alors qu'on peut voir un dimanche après-midi où on n'a pas forcément besoin de regarder le film, on peut faire la sieste devant, un flop en soi.
Un flop en soi, alors oui, même, je ne sais même pas si un dimanche après-midi est une excuse suffisante.
À un moment où on fait la vaisselle, un fond sonore.
Un fond sonore.
Je pense qu'il vaudrait mieux dire dans ce cas-là un film qu'on peut se dispenser de voir.
C'est ça, oui, exactement.
C'est mieux de présenter les choses
si
comme ça.
Si un jour quelqu'un vient vous voir et vous dit « Ah, il faut voir ce film », il faut dire « Non, il ne faut pas le voir, c'est quoi ?»
Et c'est un film, alors là, c'est un film qui, pour le sport, là, pour le coup, c'est le football. C'est le football. Le football, finalement, si on pense bien, il part en pauvre des adaptations cinématographiques.
C'est très compliqué.
Des films où le football a un rôle important. Moi, j'aime bien Coup de tête, le film de Jean-Jacques Hano.
Ouais.
Mais en soi, le football, ça aurait pu être un autre sport d'équipe. C'est le football parce que ça réunit cette petite ville. Mais revenons sur le film dont je voulais vous parler. Ça s'appelle Goal. Naissance d'un prodige. Le titre original, ouais. C'est Goal, et Naissance d'un prodige, c'est le sous-titre pour la France. Alors en plus, le film a fait l'objet d'une trilogie.
Ah oui, ça c'est une vraie belle bouse, comme on appelle ça, c'est pas beau. Ouais.
Alors c'est réalisé par Danny Cannon. Alors si je vous donne les films qu'a réalisé Danny Cannon, vous comprendrez qu'il a réalisé Judge Dredd, un film avec Sylvester Stallone, j'arrive pas à le dire, un film d'anticipation où il jouait le rôle. On est dans le futur, les juges sont à la fois flics et juges, c'est-à-dire qu'ils arrêtent, et puis ceux qu'ils arrêtent sont condamnés sur le champ, ou à la prison, ou à la mise à mort. Voilà. Et puis il y a Souviens l'été dernier 2, donc c'est pas marquant dans la filmographie, enfin la filmographie de Danny Cannon n'est pas remarquable. Alors, il y a quand même, pour vous qui êtes des fans du ballon rond, entre autres, apparaissent seulement dans ce film d'authentiques stars du ballon rond, Alan Shearer, David Beckham et Zidane.
Oui, parce qu'il joue, on va pas trahir un secret, c'est un secret de polichinelle. Il va signer au Real Madrid à l'époque des Galactiques, et donc voilà, forcément il y aura Beckham et Zinedine Zidane. Un film où, moi petit, j'ai adoré. Parce que les stars, parce que le foot, mais quand on regarde un petit peu plus tard, c'est pas beau. Ouais.
Ben non, mais de toute façon, c'est un émigré clandestin mexicain qui quitte sa famille. Alors, émigré clandestin mexicain qui vit aux États-Unis, qui va quitter sa famille pour aller en Angleterre, rejoindre le club de Newcastle, parce qu'il est tombé sur un... Enfin, parce qu'un... un recruteur est passé par là au moment où il tapait dans le ballon dans son quartier. Et c'est censé être une success story, en tout cas c'est l'objectif du film, c'est une success story, mais totalement improbable, parce que le scénario, je vous disais, bon, frise le grotesque, quoi. Ça ne tient pas du tout.
Des facilités scénaristiques peut-être ?
Ah ben oui, il y a tout, il collectionne tout ce qu'on peut critiquer, alors il y a... la gentille infirmière, la star frivole, le boucher au grand cœur, toutes les personnages de second rôle sont caricaturaux, les dialogues, n'en parlons pas. Mais de temps en temps, si on les prend au second degré, ça peut être irrésistible, si on les prend au second degré. Mais le problème, c'est que c'était pas l'objectif du film, en tout cas. Et il n'y a pas de suspense, puisqu'on sait déjà que c'est cousu de fil blanc, donc cet immigré clandestin mexicain, qui s'appelle Santiago Muñez, réussira dans le championnat anglais, en particulier à Newcastle. Donc voilà, il n'y a pas zéro surprise.
Oui,
ça manque de créativité. Alors le football, c'est pitoyable. Les seuls moments qui sont bien, en fait, sont des images de matchs authentiques. où on voit Liverpool, la vraie équipe de Liverpool, dans des situations de match. Là, oui, ils jouent au football. Après, quand on voit Mounias jouer au football, c'est... Vous vous souvenez de cette série animée japonaise, Olive et Tom.
Olive et Tom, bah
voilà,
oui.
Bah c'est ça.
C'est très compliqué. Après, est-ce que ce n'est pas compliqué de traduire le foot en film? Parce que ça va vite, c'est compliqué de mettre des caméras sur des joueurs, dans les stades, sachant que c'est le sport le plus suivi au monde.
Ah oui, c'est le plus suivi, le plus populaire. C'est incontestablement le plus populaire. Maintenant, effectivement, on pourrait tomber sur un réalisateur qui a des idées. Oui. Pour le moment, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a pour pas dire pas du tout.
Le foot se prête plus à de beaux documentaires qui transmettent des émotions qu'à des films vraiment qualitatifs.
Oui, il y avait le documentaire de notre ami yougoslave, redonnez-moi son nom, sur Maradona.
Oui, bien sûr, c'est...
On connaît que lui, mais bon, je pense que tout le monde a compris
parler. Il a eu deux fois la palme, ça y est, deux fois la palme. Un papa est en voyage d'affaires et l'autre.
Il y a Underground.
Underground. Voilà. Emir Kusturica.
Kusturica, merci. Voilà. ça, c'était vraiment intéressant. Ça.
Oui.
Mais bon, c'est un vrai grand cinéaste qui l'a tourné.
Mais aussi un fan.
Donc, et un fan, et accessoirement un fan.
Donc ça peut aussi modifier un peu l'angle.
Le match dans le football, et le sujet central, c'est à nous la victoire de John Huston.
Qui est avec une
distribution assez impressionnante.
Même si j'ai une grande tendresse pour ce film, lui aussi n'est pas un grand
film.
Ah, c'est
pas ce qu'il a fait de mieux, Huston. Il a fait deux vrais chefs-d'œuvre cinématographiques, mais pas celui-là.
Celui-là n'en fait pas partie. Mais la distribution est extraordinaire, puisqu'il y a même Stallone dans les buts.
Il joue gardien de but, oui.
Bobby Moore, Pelé, pour les vedettes de foot. Il y a Michael Caine aussi, puis une flopée d'acteurs français, puisque l'action du film se situe en France.
En France.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est un moyen de faire échapper des prisonniers de guerre britanniques. Voilà. Il y a Mac von Sydow qui fait le méchant.
Oui, il y a une distribution impressionnante.
Général nazi.
Comme souvent, ça ne donne pas forcément des chefs-d'œuvre, des films comme ça. On réunit un casting de rêve, et puis bon, à l'arrivée...
Après, dans les films de foot aussi pas terribles, il y a un film français qu'on connaît peut-être, sorti en 2002, avec Laurent Deutsch, Gérard Lanvin et Samuel Le Bihan, 3-0. Qui suit un petit peu l'histoire du PSG. C'est là aussi un petit peu compliqué à regarder. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Oui, très bien.
C'est,
film de Fabien.
C'est pour ça que ça s'appelle 3-0.
Oui, c'est ça.
Fabien Antoniente.
Enfin, de Fabien Antoniente, avec beaucoup de stars. Il y a Ronaldinho, il y a beaucoup, beaucoup de stars. Mais voilà, le film n'a pas reçu énormément de belles critiques. 1,4 sur 5, noté par les téléspectateurs. Donc, c'est compliqué.
Il y a aussi pour les films avec des stars, bah, typiquement françaises, les stars à prendre... avec des pincettes, c'est Les Seigneurs aussi.
Seigneurs, oui. Alors là aussi, il y a une belle pléiade d'acteurs. Ça se veut volontairement comique.
Oui, c'est volontairement décalé, puisque ces acteurs sont... Il y a Gad Elmaleh, il y a Joe Star, Omar Sy, José
Ramzi
Garcia,
Bédia.
Ramzi... Il y a effectivement des
mais
vedettes.
Mais ça se veut volontairement comique. Alors que là, Gol, c'est un film qui se prend au sérieux pour le coup.
Ah oui, oui. Alors,
c'est pas un film, c'est vraiment un film qui se prend au sérieux, qui se veut.
Oui, exactement. Gol, ça se prend au sérieux. Alors que Les Seigneurs, effectivement, c'est très décalé. Voilà. Et puis, il y a un Jean-Pierre Marielle, de cette petite île bretonne, assez extraordinaire. Lui, par contre, chaque fois qu'il apparaît, il crève l'écran.
Voilà, c'est ça. Donc, on retiendra ce film à voir, Les Chariots de Feu, et ce film à peut-être oublié, qui est Gol. Eric, vous qui êtes un fan de sport et de cinéma aussi, beaucoup de culture, vous le savez.
J'ai rien à voir avec le cinéphile qui est
Louis-Marie.
Marie Solaire. Moi, je passe pas mes dimanches, mes samedis dans les salles obscures.
En tout cas, Eric, vous, votre film qu'il faut voir sur le sport, c'est quoi? Peut-être.
Non, mais il y en aura eu beaucoup, mais je pense, c'est assez curieux, parce que j'ai choisi un film qui est sorti à peu près la même année que les Chariots de Feu, puisque Raging Bull de Martin Scorsese a été tourné en 1980 et en sorti en 81, donc film complètement contemporain des Chariots de Feu. C'était pas le premier de Scorsese, il avait déjà fait avant déjà des films magnifiques. Mais c'est sans doute un des... Je ne sais pas combien il en a tourné, Scorsese, mais ça commence à être vraiment impressionnant.
Dire,
mais c'est des dizaines.
On attend son dernier.
Et pour moi, c'est sans doute un des 3-4 meilleurs films de Martin Scorsese. Et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un biopic. Parce que
oui,
c'est typiquement
oui,
ça. C'est un film inspiré de la biographie du boxeur Jack LaMotta. Alors en fait, à l'origine, le film a été réalisé par Martin Scorsese et sur un scénario de son acolyte Paul Schrader. Mais c'est De Niro qui avait voulu porter l'histoire de Jack LaMotta à l'écran. Je crois dès le milieu des années 70 et 74, il a cette idée. Il en parle à Scorsese et donc l'affaire va se concrétiser en 1980. Avant, il avait tourné avec lui Taxi Driver et puis peut-être d'autres choses, je ne sais plus. Enfin, au moins un
film.
Au moins Taxi Driver en 76. Et donc, c'est l'histoire de ce boxeur d'origine. Vous avez remarqué, LaMotta, De Niro, Scorsese, tout ça, ce sont des Italo-Américains. Et c'est l'histoire assez typique de ces types qui sortent de milieux très, très, très pauvres et qui, par la boxe, bon, vont arriver un peu au firmament de leur sport. LaMotta sera champion du monde en 49 contre qui ?
Marcel Cerdan.
Voilà, Marcel Cerdan, qui avait abandonné, qui menait au point, qui avait abandonné parce qu'il était blessé, je crois, à l'épaule. Et en fait, lorsque Cerdan part aux États-Unis en 49 pour la revanche, bah c'est pour la revanche contre LaMotta, et c'est l'avion qui s'écrase, et donc la mort de Cerdan. Bon, il y a ça qui passe effectivement dans le film, mais aussi tous les combats de Jack LaMotta contre tous les grands de l'époque, et Dieu sait s'il y en avait, notamment Ray Sugar Robinson. Il y a plusieurs combats, revanches et tout. Enfin, c'est un film extraordinaire pour lequel De Niro a pris 20 kilos.
Oui.
Vraiment, il a vraiment pris 20 kilos.
Il était méconnaissable.
Voilà, pour jouer LaMotta après sa carrière qui était tombée dans la déchéance, comme malheureusement ça arrivait souvent aux boxeurs à l'époque. Tourné en noir et blanc, et avec des répliques cultes. Donc ah ouais. Le fameux... quand De Niro dit à Joe Pesci qui joue.
Alors là, si vous nous faites une phrase, Eric, je veux toute l'attitude, je veux tout, là, Eric.
Oh non, je vais pas faire toute l'attitude.
Faites-nous
bon,
De Niro
phrase,
qui imite quelqu'un.
You fuck my wife, you fuck my wife.
Bon, il y met du cœur en plus.
Tout le monde connaît cette scène. Donc où LaMotta était entre autres complètement parano, hein, complètement
oui.
Parano. Comment ça s'appelle?
C'était malgré tout pas un très très grand boxeur.
Ah non, c'était pas du tout un grand boxeur, c'était un boxeur extrêmement courageux, mais qui se faisait, entre guillemets, un petit peu ridiculiser lorsqu'il boxait contre des super techniciens comme Sugar Ray Robinson, mais qui était vaillant, au-delà même du raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si même les boxeurs se feraient pas arrêter plus tôt, parce que c'était 15 rounds à l'époque. 15 rounds, c'était pas 12, hein, et c'était vraiment des combats extrêmement sauvages. Mais l'histoire est magnifique. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant le parcours de vie d'un LaMotta, il est mort à l'âge de 95 ans. Il n'y a pas si longtemps, il est mort en 2017.
Oui, oui.
Il est mort en 2017 à l'âge
et
de 95 ans.
Et pourtant, des coups, il en a pris.
Il en a pris. Et puis, bon, il est passé par des phases terribles de dépression. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais le film est superbe avec cette pellicule en noir et blanc, la façon que Scorsese a de filmer, parfois très près des visages, les combats, c'est magnifiquement filmé.
Il avait un nez très
c'est pas des, c'est pas des images d'époque, c'est vraiment des images filmées, on voit De Niro boxer. Non, c'est un film vraiment extraordinaire. L'actrice excellente qui joue la femme de... Comment s'appelle-t-elle? Cathy Moriarty.
Exactement.
La blonde qui
exactement,
joue l'épouse.
Qui joue Vicky LaMotta.
Qui joue effectivement l'épouse Vicky LaMotta, voilà, de Jack LaMotta. Et puis il y a Joe Pesci. Non, c'est pas son premier rôle avec... dans les films de Scorsese.
C'est bien possible.
Je crois.
J'ai pas sa carrière.
Il y en aura d'autres. Voilà, enfin bon, je sais pas ce qu'on pense Louis-Marie, mais je crois pour moi que c'est un des tout meilleurs films de Martin Scorsese, et Dieu sait s'il en a tourné, il est très très bon.
Ah, incontestablement. Et sûrement un des plus beaux films
sur le sport. Et la boxe en particulier.
Mais il faut dire que la boxe, par contre, si on a affaire à quelqu'un qui sait faire des films, qui sait faire de la prise de vue, ça peut être extraordinaire au niveau des images.
Il y a la dramaturgie, la violence des images. Et Scorsese, c'est quand même au cœur de son cinéma, la violence et la violence dans les relations humaines. Et puis, et ce qui est très aussi au cœur du cinéma de Scorsese, c'est la rédemption. Et là, on est typiquement dedans. Vraiment, la rédemption d'un type qui va tomber au plus bas, qui va remonter, je vous l'ai dit, il est mort presque centenaire. Jack LaMotta, ce qui, pour un boxeur, est quand même une performance, surtout un boxeur qui a pris des coups. Qui a encaissé beaucoup de coups dans sa carrière.
Oui, oui.
Il n'avait pas de maladie particulière comme avait pu avoir Mohamed Ali.
Non, même si c'est un type qui a pu tomber dans l'alcoolisme, beaucoup de dépendance et d'addiction. C'est pour dire que c'était une force de la nature quand même, Jack LaMotta.
Exactement. Et d'ailleurs, de toute façon, l'image qui est emblématique du film, c'est celle d'ailleurs qu'on voit le plus souvent, c'est l'affiche où on voit on voit la Motta, c'est-à-dire De Niro, la Motta, en garde, hein, avec le visage méconnaissable. Et, tout est explosé, le nez, les yeux.
Oui. Les gueules cassées de la guerre à l'époque. Ouais.
C'est extraordinaire. C'est, dans cette image, il y a pratiquement tout le film.
Parmi, parmi les plus de 30 films sur la boxe, Raging Bull, c'est le meilleur.
Oh, pour moi, il n'y a aucun doute.
Il n'y a aucun doute. Et ben
c'est
voilà.
Sûrement.
Et Eric, le film a zappé, si on est devant la télé, le film a oublié, peut-être.
Alors là, c'est terrible ce que je veux dire, parce que bon, j'aurais pu prendre des super nanars comme Les Dieux du Stade des Carlo
oui, ça, c'est,
en 72.
Ça, c'est terrifiant, ouais. Mais c'est bien drôle quand même, ça se veut pas très sérieux aussi.
Oui, ça se prend pas non plus pour du grand cinéma. Enfin, il y a Francis Blanche qui joue
dans qui fait l'entraîneur.
Ouais. C'est assez étrange comme film. Bon, ça vaut le coup d'être vu parce que c'est un peu un document d'époque sur ce que pouvaient être les nanars français des années 70, voilà, bon.
Mais le film a oublié.
Le film a oublié, je ne sais pas s'il a oublié, mais moi, ce qui pour moi détonne complètement et même, comment dire, jure dans l'œuvre de Clint Eastwood, c'est Invictus. Et ce film qui retrace donc l'épopée de l'équipe d'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 95 dans leur pays, où Morgan Freeman incarne Nelson Mandela. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que c'est Freeman qui avait poussé Eastwood à tourner ce film parce qu'il espérait sans doute avoir l'Oscar du meilleur acteur en jouant ce rôle.
Il y a de grandes chances.
Que c'était du tout cuit pour lui. Pour moi, il est raté complètement. D'abord, il passe à côté de la véritable histoire parce que ça nous est présenté. C'est très, très, très américain d'ailleurs. C'était cette équipe qui part avec. A priori, aucune chance de gagner cette Coupe du Monde, même si ça se passe dans son pays, qui face à une équipe de Nouvelle-Zélande qui, à l'époque, est au-dessus de tout.
Rouleau compresseur.
On ne voyait pas comment ils pouvaient gagner. Bon, ils gagnent le match contre la France avec un arbitrage pour le moins discutable.
Il n'est pas approximatif. Un arbitrage qui a été corrompu.
On s'est fait voler, on le sait tous.
Ça a été avéré.
Joué dans des conditions absolument dantesques. Le terrain, c'était presque une piscine. Voilà. Et bon, ça, c'est absolument pas abordé dans le film. Le fait aussi que les joueurs néo-zélandais, le matin de la finale, ils sont tous malades. Enfin, tous.
Un film assez peu crédible sportivement.
Voilà. Puis après, même, il y a beaucoup d'images. On voit que le rugby, c'est pas du tout son truc, Clint Eastwood. Donc, c'est assez mal filmé. L'interprétation, j'ai pas grand chose à en dire. C'est Matt Damon, je crois,
qui joue
le rôle de François Pienaar, le capitaine de l'équipe sud-africaine. Donc, il y a un joli casting. Mais bon, voilà, c'est un film qui, dans l'œuvre générale de Clint Eastwood, même sur un plan cinématographique, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas ce qu'on pense. Louis-Marie, mais il a fait quand même beaucoup mieux. Moi, c'est ça, s'il doit sortir. Un film qui c'est pas la peine de voir, mais, et qui, malheureusement, est souvent programmé, parce que c'est un film aussi très politiquement correct, il faut bien le dire.
Oui, parce que ça arrive...
Ce qui est pas le genre de Clint Eastwood, pourtant, mais c'est un film extrêmement politiquement correct.
Parce que ça se déroule au moment de l'apartheid, en Afrique du Sud.
Oui, c'est la fin, c'est-à-dire que c'était la promotion de...
La nation arc-en-ciel.
Exactement, la nation arc-en-ciel.
Quand on voit ce qu'est devenu l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un des pays les plus violents et les plus dangereux du monde, ouais, bon.
Oui, c'est pas le. Mais on voit dans vos flops et dans vos tops que les tops, c'est des sports individuels, l'athlétisme et la boxe, et que les flops, c'est des sports collectifs. Est-ce qu'un sport collectif est plus compliqué à réaliser qu'un sport individuel?
Peut-être bien, probablement.
Pour le coup, parce que techniquement, les sports individuels sont plus compliqués à filmer. La boxe et l'athlétisme, alors que le sport collectif, il y a peut-être plus de permission au niveau de la manière de filmer ou autre.
Mais il y a surtout que les sports collectifs sont collectifs. C'est-à-dire que si on veut mettre l'accent... Alors, pour Invictus, c'est l'ensemble de l'équipe. Donc, on met pas un joueur en avant, même si c'est Pienaar qu'on suit.
Pienaar qui a beaucoup...
Parce que c'est le capitaine. Mais ce n'est pas parce que c'est le meilleur joueur. Et ensuite, justement, des films comme Goal, ça ne marche pas parce qu'on veut mettre en avant un jeune mec, montrer que ce jeune...
Qui n'existe pas vraiment, alors que Pienaar, c'est un vrai joueur.
Mais non, mais la question, ce n'est même pas d'exister. Il n'existe pas du tout à l'écran. Parce que même si c'est un personnage de fiction, il pourrait exister, être un bon footballeur. Or, on ne voit rien. On n'est pas capable de montrer ça. Et pour cause, on ne peut pas garder... la caméra sur un joueur dans un match qui implique 10 partenaires. C'est pas possible.
C'est compliqué. Mais pourtant, coup de tête, il arrive bien.
Mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas, oui,
le foot n'est pas central.
Dans Coup de tête, c'est pas le foot n'est pas central. Il y a des scènes de foot, mais courtes, et c'est accidentel parce que, justement, dans Coup de tête, le personnage incarné par Patrick Devers, lui, il a un coup de bol, quoi. Il a un coup de bol parce qu'il est là, il met son pied où il faut au bon moment et le ballon rentre dans les filets, quoi. C'est exactement ça que montre le film. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon joueur, mais il est là et il va utiliser justement cette notoriété accidentelle pour pouvoir se venger. L'objectif, ce n'est pas le foot, c'est la vengeance.
Il est complètement périphérique, le foot, dans ce film, à mon sens. Hein.
Oui, c'est pas vraiment...
Parce qu'il a été accusé à tort.
Oui, d'avoir violé...
Oui, c'est pas la même ambiance. Dans vos tops et dans vos flops, on oublie les divers Rocky, les Creed, la suite, Le Mans 66 avec un acteur incroyablement célèbre dont je n'ai plus le prénom, Rust, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, tout ça, ça vous a pas traversé l'esprit parce que Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, c'est pas vraiment...
Le Mans avec Steve McQueen. Hein, donc,
le film... Oui. Alors,
pas des chefs-d'œuvre non plus.
Ce qui est particulier avec Le Mans, c'est que Le Mans, au départ, le film de fiction, est un film écrit, co-écrit, il avait trouvé un scénariste, par Steve McQueen. Hein, c'est un film de fiction. Il a fait l'objet d'un documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont retrouvé des images de l'époque, du tournage, et qui ont bâti un documentaire. Autour et qui ont suivi aussi le tournage. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la version de 2015 où il y a des images de documentaires d'époque avec d'autres trouvées qui n'étaient pas destinées au documentaire lui-même, qui avaient été tournées en même temps que le film. Donc le documentaire sur le tournage du film est passionnant. Et il s'appelle aussi Le Mans. Mais il faut voir le documentaire moins le film de fiction avec Steve McQueen. Mais les films, encore une fois, on en revient au sport individuel. Effectivement, il y a d'excellents films sur le sport automobile, que ce soit la Formule 1
ou le Mans 66, le dernier entre Ford et Ferrari.
Oui, c'est le titre original.
Un petit peu
Ford versus Ferrari.
Un petit peu romancé dans l'histoire.
Avec Matt Damon encore.
Aussi, il n'a pas fait que des mauvais films.
Et Christian Bale.
Oui, il y a eu récemment un film sur la rivalité James Hunt-Niki
Lauda.
Oui,
très réussi.
Championnat du monde 76.
Ouais. Qui est un très beau film, à voir.
Qui est pas mal, celui-ci.
Oui, aussi, voilà. Et encore une fois, c'est...
C'est des personnages forts ou ce sont des rivalités fortes. Et je pense que c'est ça, ce qu'il faut. Ouais. Un sport collectif, c'est beaucoup plus dilué. Il n'y a pas de rivalité d'homme à homme. Et puis, on ne peut pas centrer sur un personnage plus qu'un autre. Je pense que c'est pour ça que c'est plus difficile.
C'est nécessairement plus compliqué.
Il y a eu aussi un film sur la finale de Wimbledon 1980 entre John McEnroe et Bjorn Borg. Assez récent, quelques années. Là.
Oui, puis il y a eu aussi...
5e set avec Alex Lutz.
Aussi, bah alors ça c'est...
Tu parles aussi de la santé mentale des joueurs.
Et c'est intéressant parce que c'est un joueur de tennis qui n'est pas célèbre, mais qui a été, dont le métier a été jouer au tennis, quoi. Et il a pu se maintenir. Vous savez, c'est un obscur, quoi. Il y en a beaucoup. De toute façon, dans les tournois, il y a beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup dont on ignore complètement le nom, quoi.
Justement, pour continuer cette émission et décaler sur le débat, est-ce que l'histoire du sport au cinéma est réussie grâce, justement, à ces sports individuels?
Oui, peut-être bien.
Bon, je ne sais pas si c'est réussi.
Parce qu'on le voit, on peut pas en parler.
Peut en parler puisqu'il y a plus de 30 films sur la boxe, alors que des films, alors beaucoup de films réussis ou non, ça c'est au goût de chacun, on ne discute pas les goûts et les couleurs, mais on voit que dans ce qu'on entend depuis quelques instants, il y a beaucoup de sports individuels qui surdominent les films de sport collectif.
Oui, mais pour les raisons que je crois que j'ai énoncées, parce que c'est des personnages qui sont plus forts, on peut centrer sur un personnage, sur sa biographie, ce qui est le cas de Raging Bull. Je veux dire, lorsqu'on fait un film sur un sport collectif, sur une équipe, ou éventuellement, ça n'existe pas d'ailleurs, il n'y a pas de film sur un événement, pas sur une finale de Coupe du Monde, où il y aurait une dramaturgie particulière.
Ça, c'est plutôt les documentaires qui s'en occupent.
Oui. Mais ça n'existe pas. Alors que sur les rivalités dans le tennis, on vient d'en parler, ou de la Formule 1, il y a eu des films qui ont été tournés parce qu'il y a cette dramaturgie qui existe entre deux personnages. Entre deux personnages. Là, sur les sports collectifs, je ne vois pas tellement comment on pourrait rendre ça. Il y a l'ambiance, alors que vous prenez le tennis, par exemple, il n'y a pas un bruit, vous voyez, dans un stade, ou presque pas, pendant que les joueurs jouent. Donc Et peut-être aussi ça qui, je ne sais pas, il faudrait poser la question parce que le, au cinéaste. Hein.
Effectivement, Eric a raison. Tout se fait, il y a un côté un peu... Ça fait en particulier quand c'est une finale au tennis dans un des cours où il y a énormément, en particulier aux États-Unis où il y a énormément de spectateurs, c'est une cathédrale pratiquement, c'est silencieux, on n'entend que quelques bruits, on respecte la concentration.
On ressent le film.
Après, les spectateurs explosent pour un point ou pour l'issue du match, mais pendant tout le match, la tension est palpable. Surtout quand ça se fait au point, il y en a un qui gagne un point, l'autre qui gagne un point, je pense au tennis ou à la boxe, où un a le dessous pendant un round, et puis le round suivant, ça se renverse.
Il y a le côté aussi qu'on peut rapprocher.
La dramaturgie peut durer comme ça.
On peut rapprocher du western, c'est que c'est une lutte d'homme à homme.
Oui.
C'est vraiment un duel.
Ce combat de coq,
en vrai sens du mot,
qui fait monter.
Avec un aspect mental très très fort. Cette lutte de caractère. Il y a aussi une chose qu'on peut voir, par exemple, dans les matchs de tennis ou les matchs de boxe, c'est qu'il y a beaucoup de gros plans sur les visages. On ne peut pas faire ça sur des matchs de foot ou des matchs de rugby.
Non, parce qu'on va se concentrer sur les pieds, les mêmes pour le rugby.
Non, mais c'est des vues beaucoup plus globales. Oui. Donc, je pense aussi que ça, de ce point de vue, ça rend les choses plus compliquées pour un cinéaste, pour en faire quelque chose qui soit cinématographiquement parlant et valable.
Parce que le lieu de l'action, finalement... Vous me direz, le sport automobile, c'est sur un circuit. Oui, mais ça se concentre au volant du véhicule.
Après, oui, après, c'est des images...
Après, on voit ce qui se passe, mais la rivalité s'exprime au volant. Et on peut voir où se situent les voitures dans la course, s'ils se dépassent ou pas, enfin, voilà, dans la dramaturgie.
Ça rajoute ça. Quelque chose en plus à l'image.
C'est-à-dire qu'en fait, le théâtre du drame, de l'histoire, est... réduit.
Elle est cadrée.
Un court de tennis, c'est pas grand. Un ring, c'est encore plus petit. Donc, nécessairement, l'intensité, la dramaturgie se concentre.
Donc, la proximité des protagonistes aide à être focalisé sur ce qui se passe, au final.
Oui, et puis il y a autre chose, c'est que le fait de personnaliser sur un ou deux personnages, on peut aussi parler de leur vie, en dehors du sport.
Oui, ça évite
quelles
d'aller
relations ont-ils avec leur
droite à gauche,
avec leur manager, avec leurs enfants s'ils en ont, avec leurs amis. Une équipe de foot, une équipe de rugby, vous n'allez pas faire
l'exemple
quelque
parfait
chose
de ça, c'est Rocky.
Sur 11 personnes ou sur 15. Quoi.
C'est l'exemple parfait du portrait du sportif, c'est Rocky.
Oui,
malgré le fait que ça soit un personnage de fiction, on voit tout de sa vie sportive et personnelle.
Il ne faut pas faire ça sur des sports collectifs.
Et c'est pour ça que pour les sports collectifs, les films qui sont plutôt réussis traitent de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur peut focaliser l'enfer du dimanche avec Al Pacino sur un entraîneur de, je me souviens plus du nom de l'équipe de football américain. C'est ça, c'est la méthode d'entraînement de cet homme. Plus que, alors il a des joueurs, il sait montrer les joueurs. Alors on voit des phases de jeu, mais c'est simplement pour donner une idée de l'intensité du match, s'il gagne ou perd, parce que c'est déterminant sur la carrière de l'entraîneur. Mais c'est l'entraîneur qui est le centre de l'histoire. Y en a aussi sur le basket, c'est la même chose.
Coach Carter, avec Samuel L. Jackson.
Voilà, c'est sur l'entraîneur. Pas très réussi non plus, mais l'action se focalise sur ce personnage. Donc on peut être centré sur un homme au lieu d'une équipe entière.
Pour toujours attirer l'attention sur une seule personne, un seul protagoniste dans le film et pas 25 joueurs.
Exactement.
Voilà, comme quoi on aura tout compris. Rapidement, votre premier souvenir de film sur le sport, c'est quoi ? Votre premier, là tout de suite, le premier souvenir. Les Charlots, peut-être, on en a parlé. Peut-être que ce n'est pas votre premier souvenir, mais celui qui vous a peut-être aussi le plus marqué, c'est quoi ?
Ben, c'est bien compliqué comme question.
Moi, je crois que le premier film dont le sport est un peu le sujet central dont j'ai le souvenir, je crois que c'est les Rois du sport. Film de 1937 avec Fernandel, Rému et Jules Berry. C'est une grande guignolade. C'est vraiment le sport à aborder sur l'angle des paris. C'est les paris sportifs à l'époque parce que ça existait déjà. C'est Fernandel qui joue un peu le rôle d'un tocard. Enfin, c'est des petits escrocs qui essayent de gagner leur vie en, comment dirais-je, en trafiquant un peu des paris sportifs, en trichant lors de courses ou de combats. Donc c'est très très drôle. Donc je crois que c'est ça mon premier souvenir. Ça doit être le premier film sur le sport que j'ai dû voir à la télévision à l'époque. C'est un film qui ne repasse plus, comme par hasard d'ailleurs.
Pour moi, ce sera la même époque. Sur le sport, c'est parce que le personnage, à un moment, sera gardien de but de foot. Et donc, l'attention va se focaliser sur lui. C'est le triporteur. Le triporteur avec Darry Cole. Alors, on ne se souvient plus s'il n'avait pas bu un coup avant ou il y a quelque chose qui l'avait un peu stimulé, mais peu importe. Et on ne voit que lui, pendant le match, il tend un bras, il arrête tous les ballons comme il veut. Même il y a un moment...
Parfois sans le faire exprès.
Sans le faire, mais d'un pied. Chez lui, c'est naturel. Voilà, c'est pas vraiment un film de sport, mais il y a ce moment-là qui...
C'est le sport sous l'angle très cocasse.
Ah, oui.
Ouais, au final, des films qui ne se prennent pas vraiment au sérieux. Quoi.
Ah non, mais ça, alors...
Ouais, avec des personnages un peu ridicules...
Alors celui-là, il ne se prenait pas du tout au sérieux, et pour cause. Non, mais pas du tout. Mais...
Reporter.
Ouais. Il me semble même que c'est Darry Cole qui l'avait réalisé.
C'est un dénommé Besnard, je crois.
Oui, mais en tout cas, il avait participé. Il porte tout le film, Darry Cole. Lui et son triporteur.
Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est d'après un roman de René Fallet, le triporteur, il me semble.
Eh bien justement, on va essayer de chercher cette information. On va écouter Les Chariots de Feu, le coup de cœur de Louis-Marie, et on se retrouve juste après. Et pour terminer, on va évidemment répondre à quelques questions qui tournent autour du sport pour voir qui d'entre vous, parce que vous nous parlez cinéma, mais est-ce que vous êtes calé sur le cinéma au final, on va essayer de voir ça. Le petit fil rouge de cette question, Eric, est-ce que vous avez trouvé l'information que vous cherchiez tout à l'heure?
Il l'a trouvé.
Alors le réalisateur, c'est Jacques Pinotto, et j'avais en tête Jacques Besnard, c'est Jacques Pinotto. Et effectivement, c'est d'après un roman de René Fallet, le Triporteur.
Très bien, et bien voilà, comme quoi on a réussi à avoir l'information. Alors attention messieurs, pour ces petites questions sur le cinéma, très rapidement, attention, en quelle année est sorti le premier film de sport au cinéma? Très bien, faites des propositions, je ne suis pas un DVD, vous pouvez participer, tenter votre chance.
Ça doit être au tout début de
Il y a Charlot Boxer déjà, les années...
C'est le cinéma muet.
Ouais, je me demande même si ce n'est pas avant la Première Guerre mondiale ou juste après. Donc c'est les années avant les années 1910, je ne sais pas combien, un truc comme ça, 15, 16, 17, 18, je ne sais rien. Mais il y a peut-être eu avant, hein. Mais c'est à l'époque du burlesque, c'est sûr.
Il y a eu les deux premiers films en 1894.
Ah oui.
Voilà.
Ah non, 94, ça m'étonnerait, parce que le cinéma est créé en 1895. Ben, fin 95.
Il y a deux films américains qui sont sortis tous les deux en 1994, faits par William Kennedy Dixon. C'est les tout premiers films consacrés au sport. Alors attention, mais à quel sport justement? On en a parlé, on l'a même...
1894.
Ah oui, c'est pas moi. Alors,
parce que ma connaissance, le cinéma est né en décembre 1895 avec les Frères Lumière. Oui. Donc s'il y a un film de 1894 sur le sport, ça c'est très très étonnant.
Réalisé en 1894, il est peut-être sorti un poil plus tard, une petite année plus tard.
Marie, c'est terrible, il vient nous apprendre que ce ne sont pas les Français qui ont inventé le cinéma.
Mince.
Il a été réalisé.
Merci de nous avoir gâché la soirée.
Voilà, il a été réalisé en 94, mais il est sorti en 95.
Oui.
Donc c'est un film court de 40 secondes. Sur quoi ça peut porter ce film?
40 secondes.
Oui, bah oui. Après, c'était des films de l'époque.
Ah oui, effectivement.
Très court, très
compliqué. C'est pas de la boxe.
C'est de la boxe.
Oui, bah oui.
C'est de la boxe anglaise. Ça dure les deux films durent moins d'une minute. Voilà, c'est des très courts films. C'est pas des longs métrages. Mais c'est les deux premiers films qui sont sortis.
En fait, c'est plus pour essayer le procédé que pour
le sujet. Je pense que c'était plus laboratoire. Attention, on en a parlé aussi. Quel est le film qui a reçu le plus d'Oscars?
Traiteur de sport.
Oui, c'est l'émission, c'est le thème de l'émission.
Ça doit être Raging Bull, probablement.
Non, c'est pas Raging Bull.
Bah, c'est peut-être les chariots de feu.
C'est les chariots de feu.
Vous l'avez,
c'était la question juste d'après. Messieurs, est-ce que vous pouvez me citer qui peut me citer deux films de sport automobile? Le premier qui me donne son prénom peut tenter sa chance.
On en a parlé.
Qui me donne son prénom?
Oui, si vous dites Eric, donnez-moi deux films. Voilà, c'est l'idée.
On en a parlé.
Il y a Le Mans 66.
Et
Le Mans 66, et puis la rivalité Lauda Hunt, j'ai plus le titre en tête, Lauda Hunt.
Pour voir si vous étiez attentif à cette émission.
C'est un seul mot.
C'est effectivement un seul mot. Il y en a eu d'autres
Rush,
aussi.
C'est Rush,
effectivement. Il y a eu Vaillant aussi, il y a eu Driven, Le Mans, Jour de Tonnerre.
Par définition.
Oui, alors ceux-là pourraient faire partie des films à déconseiller.
Les bandes dessinées adaptées au cinéma, c'est toujours des catastrophes.
Ah, Michel Vaillant, oui, c'est vrai que c'était...
toujours des catastrophes. Que ce soit Gaston Lagaffe, que ce soit...
C'est une Madeleine de Proust.
éventuellement Astérix si on veut, mais c'est pas des adaptations stricto sensu. Oui, bon.
Et même Astérix...
Il faut laisser les bandes dessinées dans le papier.
Non, mais c'est ça. On a beaucoup parlé, on a parlé que de ça, du film sportif, mais où se situe le festival consacré au film sportif? Où est-ce qu'il a lieu, ce festival?
Aux États-Unis?
Non.
C'est en France?
Non. C'est en Europe?
En Angleterre?
Non.
En Italie? En Allemagne?
En Italie.
En Italie. Bon, vous voyez, dans quelle ville?
Bergame?
Non.
Milan.
Milan, voilà. La prochaine édition, la 24e édition a eu lieu en 2006. Voilà. C'est l'info que j'ai, on remercie.
Donc c'est un genre à part.
Il y a un festival, le Sport Movies and TV de la Fédération Internationale de Cinéma Télévision Sportive qui se tient chaque année à Milan. Voilà, c'est le plus important festival consacré au film. Et vous en avez parlé, c'était votre coup de cœur, Eric. En quelle année est sorti Raging Bull?
Je l'ai dit, vous voulez que je le redise?
C'est pour voir si Louis-Marie a suivi, mais Louis-Marie, il n'a pas envie. Les questions
sont tournées en 80 et sorties en 81 en France.
Voilà, très bien.
C'est
très
marche.
Parfait, très bien. Et le nom de Jake LaMotta, le surnom de Jake LaMotta, il y en avait deux.
Le taureau enragé, c'est Raging Bull, mais oui, il y en avait un autre, je sais pas. Ouais, il y en avait un autre, je sais plus ce que c'était.
Oui, ils sont pas allés chercher très loin. Hein. Le taureau du Bronx.
Oui.
Voilà, dites-le que mes questions sont pourries, c'est pas grave. Hein.
Non,
je me sens dépité.
On est dépité.
On apprend des choses.
On n'est pas capable de répondre. Moi, je connaissais le surnom de Marcel Cerdan.
Ah, qui est? Allez-y.
Le bombardier marocain.
Voilà.
Très bien, le bombardier marocain qui était marié à Edith Piaf.
Non, pas marié, c'est sa maîtresse.
C'est sa maîtresse.
Qu'est-ce que vous racontez?
Non, pas du tout, pas marié.
Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission Sport et Cinéma. Pas sûr qu'on va la retenter, cette émission. Hein. En tout cas, on aura appris plein de choses.
On a peut-être fait pas le tour, mais bon.
Oui.
Mais au moins, on aura parlé de coups de cœur, de possibles films à voir.
C'est pas le genre le plus vieux.
Le plus facile.
Représenté au cinéma.
Oui, c'est. Non. Pourtant, on en a écrit des livres, hein, mais.
Oui.
Ben voilà, en tout cas, si vous avez peut-être, hein, ces week-ends plus vieux ou pas, des films à voir. Éric Dupri et Louis-Marie Solaire, vous en ont proposé quelques-uns. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission.
Merci de votre invitation.
Merci, Jonathan.
Et on se retrouve donc pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Esprit Sport.